Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et le plaisir aujourd'hui dans les studios d'avoir le sénateur aux Français à l'étranger, sénateur Duvernois. Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour, je dirais. Ça fait...
Rebonjour.
Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu.
Oui, mais on ne s'est pas oublié.
C'est clair. On reçoit votre petite newsletter tous les mois.
Oui, c'est bien.
Vous êtes en Australie aujourd'hui pour un petit peu de temps et vous avez beaucoup travaillé hier à visiter pas mal d'écoles. L'éducation, c'est important pour vous, je pense.
Oui, mais je crois que c'est important pour moi, mais surtout pour les Français qui sont... qui vivent à l'étranger. C'est ce que j'appelle la priorité des priorités. C'est une des priorités des communautés françaises expatriées. À partir de l'éducation, eh bien, on peut décliner toutes sortes d'activités, le développement économique, le développement, la sécurité, etc., etc. Donc l'éducation est un objectif majoritairement reconnu comme étant un besoin... que nous devons servir, proposer aux Français expatriés.
D'accord. Dans ce que vous avez vu, il y a un modèle qui vous...
Mais il n'y a pas un modèle en particulier. Il y a des modèles d'éducation.
Mais est-ce qu'il y a un modèle qui vous interpelle plus que les autres? Parce qu'il y a plusieurs modèles d'éducation.
Ce qui m'interpelle d'abord et avant tout, c'est l'offre éducative française à l'étranger. Elle peut être déclinée de plusieurs façons. Nous avons la façon traditionnelle, classique, les réseaux, nos établissements qu'on appelle lycées français, homologués par l'éducation nationale. En Australie, nous en avons un à Sydney, le lycée Condorcet. Mais nous avons aussi d'autres offres éducatives par la mission laïque française. Elle n'est pas présente ou peu présente ou pas du tout, je crois, en Australie. Mais elle est très présente dans d'autres parties du monde. Nous avons le Centre national d'enseignement à distance.
Le CNED.
Le CNED, qui est très présent également en Australie. J'ai pu le constater hier à l'école Camberwell.
Camberwell, oui.
Oui, qui est conventionnée avec le CNED. Le CNED joue un rôle aussi important que les autres réseaux que je viens de mentionner. Et puis nous avons un nouveau réseau qui se développe beaucoup et particulièrement dans les pays anglo-saxons. Le réseau des filières bilingues ou binationales francophones. À Melbourne, nous avons l'école Caulfield, qui est homologuée.
Homologuée AEFE.
Qui est homologuée AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est la troisième fois que je l'ai visitée hier et l'école a beaucoup progressé. Et je m'en réjouis personnellement et rencontre, me semble-t-il, tout à fait les objectifs de la communauté française, puisque nous avons maintenant près de 400 élèves, je crois. Hein. C'est cela. Mmh. Alors, je me réjouis également de voir que l'État du Victoria s'intéresse beaucoup à cette filière, qui est singulière par rapport à l'enseignement australien classique, traditionnel, et qui correspond parfaitement aussi à ce qu'est véritablement le monde, c'est-à-dire un monde globalisé, un monde qui appelle à la mobilité internationale à la fois sur un plan personnel et professionnel. Mmh. Donc la nécessité de s'ouvrir sur d'autres langues et d'autres cultures dans une vie professionnelle.
Tout à fait, parce que l'importance d'une école comme Caulfield ou comme les écoles de l'AEFE, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement du français, c'est du français intégré dans le pays. Et on parle beaucoup aussi de l'anglais. Donc en fait, c'est vraiment une éducation qui est jumelée avec l'éducation locale. Donc les petits Français ou Australiens qui passent par Caulfield, pour pas
sont parfaitement
nommer,
bilingues.
Oui, mais ils sont dans les deux systèmes.
Ils sont dans les deux systèmes. Ce qu'on appelle une école bilingue, c'est une école où il y a deux langues d'enseignement. On n'apprend pas ni l'anglais ni le français comme langue vivante étrangère. D'ailleurs, apprendre l'anglais comme langue vivante étrangère, ici, ça serait paradoxal. Mais ces deux langues sont des langues d'enseignement. Par contre, on peut apprendre dans une école bilingue, on peut apprendre le mandarin, on peut apprendre l'italien, le grec ou ce que vous voulez, en fonction de vos centres d'intérêt et de vos choix personnels. Mais ce ne sont pas des langues d'enseignement, ce sont des langues étrangères, des langues vivantes étrangères. qu'on apprend en plus des deux langues d'enseignement. Mais l'enseignement bilingue, c'est assez fascinant parce qu'on arrive en assez peu de temps. D'ailleurs, j'ai pu le constater hier dans les établissements que j'ai visités. On peut parler avec des jeunes Australiens qui parlent déjà un français châtié. Et plus on apprend dans une langue aussi étrangère, plus on découvre la richesse de sa propre langue. Ce n'est pas au détriment de sa langue. Mmh. C'est une valeur ajoutée qu'on apporte aux jeunes enfants. C'est fascinant. Mmh. C'est merveilleux.
Et vous le voyez un peu partout dans tous vos voyages ?
Oui, absolument.
Dans ce modèle-là ?
Absolument. Mais on travaille beaucoup aux États-Unis aussi, qui est un pays un peu comparable en termes d'enseignement, pays anglo-saxon.
Faut pas le dire ça au ministère de l'Éducation, hein, ici. Hein.
Oui, non, non.
Pas le modèle américain comme...
Non, mais il faut s'entendre sur le mot modèle. J'entends par là que le système est un système d'enseignement en anglais, d'inspiration et totalement de créativité anglo-saxonne. Eh bien, nous rencontrons beaucoup de succès dans plusieurs États aux États-Unis où nous avons installé, en accord avec les autorités locales, un enseignement bilingue, précisément où le français et l'anglais sont deux langues d'enseignement. Mmh. J'insiste beaucoup là-dessus, deux langues d'enseignement.
Il y a deux méthodes en plus différentes, parce que quand je le vois, parce que ma fille est dans ce cursus-là, mais il y a la méthode française où elle a dit, oh là, quand je suis en semaine française, ça va être un peu plus sérieux et je vais travailler plus sur quelque chose d'un peu plus académique. Et puis quand elle est dans la semaine anglaise, elle va dire que c'est un peu plus facile, mais en fait, elle travaille sur des notions de groupe.
Exactement.
Donc c'est vraiment deux façons d'apprendre qui sont
c'est
différentes.
C'est deux façons d'apprendre, effectivement. Et je dois dire qu'on apporte chacun des deux partenaires, l'Australien et le Français, puisque nous sommes en Australie, apportent le meilleur de son système. Mmh. Il n'y a pas de système parfait, ni d'un côté, ni de l'autre, ni ailleurs. Mais il y a des bons points de chaque côté.
Ouais,
et dans un système bilingue, on ne choisit que les bons points.
C'est vrai, tout à fait. On l'entend, ça, à Paris, au Sénat. On en parle, on en
Alors,
discute.
Je peux vous dire que il faut nuancer. Paradoxalement, au ministère de l'Éducation nationale, qui est une histoire ancienne, qui est un ministère très centralisé, on a une approche beaucoup plus retenue, ou une manière de voir les choses. Par contre, au Sénat, eh bien, je peux vous dire qu'on est à la pointe de la réflexion. En 2012, donc il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, je tiens à le souligner, les premières rencontres internationales, les premières rencontre internationale de l'enseignement bilingue francophone, c'est-à-dire où il y a deux langues d'enseignement. Alors, on est dans un pays où l'anglais est la langue maternelle, mais on peut faire de l'enseignement bilingue. On a des établissements bilingues en Italie, c'est français-italien. Et on apprend l'anglais, naturellement, ou l'allemand, ou d'autres langues, comme langue vivante étrangère, en plus. Eh bien, le Sénat s'intéresse beaucoup à cette question. Et là, je m'exprime en tant que vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication que je suis au Sénat. On a une oreille très attentive pour accompagner encore davantage de ce que nous faisons à l'heure actuelle, ce qu'on appelle une nouvelle coopération éducative. Une coopération, c'est donc avec deux partenaires, la France et le partenaire du pays d'accueil. Une coopération éducative à la fois singulière, constructive, originale et performante.
D'accord. Vous êtes accompagné aujourd'hui avec Daniel Kemp, oui. Qu'on connaît beaucoup ici.
Oui.
Qu'on connaît
Moi aussi,
très
je
bien
connais
ici.
Beaucoup.
Bonjour Daniel.
Bonjour Christophe.
De retour sur les ondes de SBS.
Oui.
Votre mission ici.
Le rôle lui-même. Il y a ce rôle de conseiller consulaire. Conseiller consulaire, c'est nous sommes élus par la communauté française avec l'idée de pouvoir accompagner, développer les rapports avec la communauté française, mais aussi certains projets. Dans mon cas, j'ai choisi, comme je suis aussi conseiller AFE, parce que c'est une deuxième liste et je fais partie d'un collège électoral, j'ai choisi l'éducation, l'enseignement, la culture, les affaires culturelles et la technologie de l'extérieur. Eh bien, je retrouve exactement les mêmes préoccupations, il faut dire, et aussi l'idée qu'il y a une évolution presque permanente. L'idée qu'on va avoir une méthode et qu'elle va rester pour une très longue période. Nous l'avons déjà abandonné depuis très très longtemps. Mais ce qui arrive, c'est que la technologie, qui peut quelquefois être encombrante, embarrassante, peut nous accaparer, peut rompre ou intervenir dans les relations entre les membres d'une même famille, cette technologie peut aussi vous apporter non seulement certains résultats très rapidement, et tout le monde le sait, surtout quand on travaille dans les médias, c'est aussi une façon aussi de pouvoir en quelque sorte déconstruire les distances. Ce qui veut dire qu'on a vu hier, par exemple, dans le cas du CNED, on avait une question en particulier. Est-ce que le retour des copies après avoir été corrigé est plus rapide? Ben, naturellement, parce que tout est envoyé par le net. Mmh. Quand il s'agit des communications qui sont maintenant nous exigeons que les communications soient instantanées et très très rapides. Et le grand problème, quand on a eu des problèmes de vote, et ça je serais prêt à en discuter à d'autres temps, mais ça a été justement que la technologie n'était pas performante. La technologie, on a des exigences de performance de technologie parce que nous l'utilisons dans tous les domaines. Et nous l'utilisons dans une relation avec le temps qui est probablement beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre génération. Mmh. Donc il faut que ça soit à niveau. Que ça soit à niveau aussi bien dans l'éducation que dans la communication. Un de mes hobbies favoris, ou plutôt de mes critiques favorites, ça a été justement le processus de dématérialisation des archives, des démarches consulaires, des fournitures de passeports, la machine Itinera qui n'était pas très, très... Disons performante, j'allais dire autre chose, mais je me suis retenue, la double comparution, c'était pratiquement une course d'obstacles pour n'importe qui voulait faire renouveler son passeport. Et bien maintenant, nous avons eu l'engagement lors de la dernière séance plénière, parce que ça a été, je me suis dit, je vais me concentrer uniquement sur ce qui nous frustre le plus possible en tant qu'expatriés, lorsque nous devons renouveler nos passeports, nos cartes d'identité ou faire une démarche consulaire. Eh bien, ça nous a été promis. Alors, je vous tiendrai au courant si finalement
aussi,
c'est délivré.
Il faut que je refasse mon passeport, donc ça m'intéresse. Et je n'ai pas envie d'aller voyager pour le faire.
Non, absolument. Une chose qui est encore extrêmement frustrante, ça a été le vote. Le vote, pourquoi le vote? Parce que les gens qui se déplacent, qui font l'effort de se déplacer pour s'exprimer en tant qu'expatriés, en tant que double nationaux et en tant que ayant choisi un candidat ou une candidate, ces gens-là ont le droit d'avoir le droit de voter et de n'avoir aucune difficulté. Eh bien, je crois que maintenant, nous allons surmonter ça parce que c'est une chose qui a frustré tellement de monde qu'il y a eu énormément de plaintes.
Oui, c'est super important cette année parce que l'année prochaine, il y a une élection présidentielle. Et si on ne s'inscrit pas et on ne vérifie pas qu'on est sur les listes électorales cette année, on ne pourra pas voter l'année prochaine et on aura juste le droit de se taire.
On aura juste le droit
avant le 31 décembre
de cette année
prochain.
Alors il faut le dire parce qu'il y a une chose aussi, qu'il y a des consignes au niveau des bureaucraties consulaires, c'est que s'il n'y a pas signe de vie de la part d'une personne, hein, ce qu'on appelle les certificats de vie ou simplement les démarches ou les échanges, eh bien on peut être radié. Mmh. On peut être tout simplement radié et on ne le sait pas.
Absolument.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous nous battons en ce moment.
Exactement.
Il ne faut absolument pas qu'il y ait radiation sans avoir fait l'effort de prendre contact, de s'assurer que la personne soit n'est plus là, soit n'est plus intéressée. Mmh. Or, il y a eu des radiations. Il y a aussi une double inscription. Par exemple, l'inscription sur un des problèmes sur lequel nous avons travaillé cette année, eh bien, c'était qu'il y avait des gens qui étaient inscrits sur dans une mairie de leur là où ils ont une maison de famille ou ils sont inscrits en France, et puis ils sont aussi inscrits au consulat. S'ils ne manifestent pas au consulat qu'ils soient leur déménagement, soit les changements de circonstances, soit la géographie, etc., eh bien ils risquent d'être radiés, tout simplement parce qu'on ne peut pas, et là encore une fois c'est en discussion maintenant, on ne peut pas être inscrit sur deux listes à la fois, ou voter sur deux listes à la fois. Donc il y a des problèmes qui sont spécifiques aux Français expatriés. Et je crois que avec l'aide de tout le monde et avec la technologie, on peut quand même, à notre époque, on peut quand même s'attendre à ce qu'une technologie marche.
C'est quand même le 21e siècle.
C'est
quand
le 21e siècle.
Est-ce que vous avez rencontré les élèves? Est-ce que vous avez rencontré les parents?
Bien sûr. On a rencontré toute la communauté éducative. Et sur les questions de sécurité, il ne faut pas non plus dramatiser les choses, mais il faut les voir d'une manière très consciente. Il n'y a plus de pays totalement sécuritaire. On le voit bien à l'heure actuelle. Avant, c'était localisé dans des pays dits à risque. Maintenant, tous les pays, malheureusement, sont à risque.
Sont menacés.
Alors, encore une fois, sans dramatiser les choses, il faut prendre des précautions. Et les précautions, c'est des mesures de sécurité. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a créé un service spécifique pour accompagner les établissements dans le réseau sur les 5 continents, pour accompagner et sécuriser aussi les familles, les personnels qui sont appelés à travailler, et les enfants, au premier chef. Alors, ça ne veut pas dire que, en installant des mesures de sécurité... Les risques sont zéro. Vous savez, le destin joue aussi, malheureusement, pour les uns comme pour les autres. Mais nous devons avoir cette dimension sécuritaire, désormais, à l'esprit, où que ce soit.
Absolument, absolument.
Où que ce soit.
Si on parle de la sécurité, je vais prendre une petite tangente. On a beaucoup parlé de la double nationalité ou du déchéance de la nationalité. Mmh. Ça a été énormément débattu. Mmh. Vous en avez très certainement fait partie de ça.
Tout à fait.
Ah oui.
En Australie, on a une approche qui est complètement différente de celle de la France, puisqu'on admet que on peut perdre sa nationalité si on fait des cas d'extrémisme. En France, on a pris un virage à l'envers, et ce virage aujourd'hui, il est mis en avant par les gens qui défendent justement le fait que cette loi ne devrait pas être mise en place aujourd'hui en Australie. Vous, en tant que sénateur, ça a été compliqué de réfléchir là-dessus.
Oui, c'était compliqué.
Il y a plusieurs niveaux sur cette réflexion.
Et, exactement. C'était compliqué et mal expliqué. D'abord, la France reconnaît la double nationalité.
Elle l'a toujours fait. À partir du 20e siècle.
Mais la France a signé une convention internationale. Elle ne peut pas expulser un apatride. Mmh. Donc, un double national à qui on retire la nationalité française, on ne peut pas l'expulser. Donc, il est obligé de rester sur le territoire national. Il y a quand même une incohérence. Peu importe la gravité du geste posé. Peu importe. Donc, on va déchoir de nationalité dans l'état actuel du droit français en étant obligé de garder
l'individu
en question qui menace.
Voilà. Deuxième observation. La déchéance de la nationalité existe déjà dans le droit pénal français. Mmh. Et on peut déchoir. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a en moyenne tous les ans 2 à 3 personnes qui sont déchues de leur nationalité.
Pour des raisons très graves, en général.
Oui, pour des raisons graves et quelles que soient ces raisons. Inscrire, par contre, la déchéance dans la Constitution, c'est un geste politique. Mais ce n'est pas un geste juridique. Ça devient juridique dans le sens où une fois où la déchéance est inscrite dans la Constitution. Mais dans l'état actuel des choses, compte tenu de ce que je viens de vous dire, la France a déjà la possibilité juridique de déchoir de la nationalité quelqu'un qui a...
Alors c'est ce que je voulais vous entendre dire, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé ici, sans faire de politique, mais on a beaucoup parlé ici de l'opposition qui disait qu'en fait, en France, on est venu à ses sens et on a décidé de ne pas le faire. Mais en France, ça existe.
Est-ce que ça existe déjà. Ça
existe déjà. La grosse différence, c'est qu'en France, on voulait l'inscrire dans la Constitution.
Absolument.
C'est pas du tout le même débat ici.
Mais c'est pas du tout le même débat. C'est pour ça qu'en réalité, on ne peut pas dire que la France est contre la déchéance. Elle existe déjà dans le code pénal.
Et ça a été un des arguments, d'ailleurs, qui a été avancé à plusieurs reprises. Lorsqu'on dit, mais pourquoi répéter quelque chose qui est déjà là? Est-ce qu'on peut-être on modifie ce qui est déjà là pour si en cas où on en a besoin? Et donc, il a été mal compris aussi quand les gens disaient « je suis contre parce qu'il existe déjà ». Certains ont dit « mais oui, mais nous sommes dans une situation qui n'avait pas de précédent ». Donc, peut-être qu'il faut revisiter cette constitution ou cet amendement ou cette loi. Mais il y a une autre chose aussi. Nous avons, nous, en tant que Français, représentant les Français de l'étranger, Nous avons l'impression de ne pas avoir une visibilité suffisante en France.
Oui, c'est
de la part de la classe politique française. Nous représentons des Français qui sont établis à l'étranger. Ça a tellement bien marché pendant tellement d'années que plus personne n'y pense. Donc, on dit en général, en anglais, c'est la roue qui grince qui attire l'attention. Et donc, ça a très très bien marché. Donc, on n'y pensait pas beaucoup. Et puis, on les a un peu oubliés, etc. Par contre, la fonction qu'on a et la fonction qui établit ces liens et qui les consolide, c'est une fonction où il faut quand même avoir une certaine visibilité pour que les gens sachent qu'on sert à quelque chose. C'est surtout ça. Ceux qui ont voté pour nous, oui. En France, je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment de nous. On a des assemblées, ils sont contents de nous voir. Mais enfin bon, je pense que même les politiques français, à part ceux qui sont vraiment carrément dans le cadre et dédiés à la tâche, ne s'intéressent pas excessivement à nous.
Moi, je résumerais, puisque le Sénat, vous y avez fait référence précédemment, était contre. Il n'était pas contre la déchéance, la nationalité, puisqu'elle existe déjà. Mmh. On ne peut pas être contre quelque chose qui existe déjà. Par contre, il était contre l'instrumentalisation politique que le geste aurait pu être perçu en inscrivant la déchéance de la nationalité dans la Constitution. Ce n'est pas la même chose.
Mmh. D'accord. Si on parle du reste de votre, j'allais dire séjour, non, votre voyage ici.
Voyage.
C'est pas un
mission.
Séjour, mission.
Mission. Oui, il ne quitte pas l'Australie tout de suite.
Il y a encore du pain sur la planche, non?
Oui, je pars ce soir à Adélaïde, où je vais retrouver la communauté française. Elle est moins importante qu'à Melbourne ou qu'à Sydney, mais il y a quand même un principe constitutionnel de base. Là où il y a des Français, nous devons nous occuper d'eux. Ne serait-ce qu'une personne, elle mérite toute notre attention. Et c'est la raison pour laquelle j'étais venu déjà à 3 reprises en Australie et pour des raisons purement d'agenda, je n'ai pu me rendre à Adélaïde. Et j'avais promis la dernière fois que à mon prochain voyage, j'irai. Eh bien, j'ai tenu parole.
Et ben voilà.
Je pars ce soir.
Les gens d'Adélaïde vous verront la semaine prochaine.
Voilà, absolument.
Et après, ça sera Sydney.
Après, Canberra.
Canberra.
Je vais retrouver notre ambassadeur, que je connais bien, qui avait fait un travail, me permettre de dire, tout à fait remarquable, lorsqu'il dirigeait Ubi France, qui est devenu maintenant Business France. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très actif. Et j'ai pu me rendre compte dans les visites des établissements que nous avons fait hier avec Madame Kemp, qu'il était très actif, ses services étaient très actifs, le conseiller de coopération et d'action culturelle comprenait parfaitement bien cette proposition de développer l'enseignement bilingue, voire binational, dans certains établissements ici en Australie. Et j'aurais plaisir, lors de mon passage dans la capitale, de m'entretenir avec lui et de voir comment on peut encore davantage renforcer cette coopération avec notre partenaire australien. Et en plus, pays ami et allié.
Et depuis 100 ans.
Oui. Voilà. Et puis pays invité, je crois, au 14 juillet.
Et invité au 14 juillet.
Je ne dois pas le dire, je ne sais plus.
Oui, exactement. Mais on peut le dire quand même.
On peut le dire quand même, voilà. Merci d'être venu.
Je vous en prie.
Merci.
Toujours un plaisir.
Bah, toujours la porte est ouverte. Merci.
Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.